Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier culte en français avant les vacances. Et que le Seigneur, cet après-midi encore, vous bénisse, nous bénisse richement, qu'il puisse nous remplir de sa présence. Si nous le croyons déjà, nous avons fait la moitié du chemin vers lui. J'aimerais cet après-midi que nous, après la lecture de ces versets dans Romains, que nous rebondissions sur cette phrase « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette phrase illustre aujourd'hui ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, ce que je vis va avoir des répercussions sur demain et sur mon avenir. Par exemple, aujourd'hui, je suis là à écouter les paroles de Dieu, mais que va-t-elle devenir cette parole demain? Et moi, je vais vous proposer d'aller encore plus loin et parler d'hier, de ce qui s'est passé encore avant, dans le passé. Quel est l'impact du passé sur mon présent, sur mon avenir? Le titre de ce message, « Le passé, c'est passé », ça, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais ça a plusieurs significations. J'aimerais vraiment que nous réfléchissions à cela. Le passé n'a pas vocation à être constamment effacé, oublié, nié, rejeté ou ignoré. Le passé doit me servir à construire mon présent et mon avenir. Le passé est utile pour me permettre de grandir, en statut en intelligence surtout, de progresser, de tirer des enseignements sur ce que j'ai traversé, j'ai le passé. À l'inverse, le passé est inutile s'il est devenu un ennemi, un parasite, un frein, un blocage, une source d'angoisse, de regret, de remords, d'amertume. C'est son aspect négatif, destructeur, qui aura des conséquences néfastes sur mon avenir. La mélancolie, le regret, le fameux « Ah, c'était mieux avant !» Parfois on l'entend « Ah, c'était mieux avant !» Parfois même de notre bouche. Et ces sentiments se trouvent parfois en nous. Et qu'est-ce qu'ils signifient quand on dit « Ah, c'était mieux avant ?» Sans parler du « Oh, j'y arriverai pas, je suis trop petit, je suis trop grand, trop gros, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez sûr de moi, je suis rempli de doutes. » Et quand tout cela, tout ce qui est négatif, tout ce qui est néfaste, tout ce qui va devenir néfaste, quand cela ça me rattrape dans mon présent, qu'est-ce qui se passe? Quand ce que j'ai bâti, ce que j'ai pensé, ce que j'ai forgé, refait surface dans une situation que je traverse ou je vais traverser, que va-t-il se passer? Parce que là, mon jugement, mes décisions peuvent en être altérées, faussées, avec l'effet inverse escompté. Une issue négative au lieu de positive. Mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une issue fatale, ce qui s'est passé dans le passé? Non, je suis pas formaté, je ne suis pas déterminé, je ne suis pas conditionné, je ne suis pas prisonnier par mon passé, même si ce dernier, on est d'accord, hein, peut influencer ma vie présente. Mais comment ça va influencer ma vie présente? Positivement ou négativement? M'ouvrant les portes ou me fermant les portes? Écoutez bien cette phrase, le passé influe certes sur mon présent, hein, mais il ne saurait être le maître de ma vie. Il y a un exemple dans la Bible qui s'appelle Gédéon. Dans Juges, chapitre 6, versets 11 à 16, je vais vous lire quelques petits versets. « Puis vint l'ange de l'Éternel, hein, un envoyé direct, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Je crois que tu as fait erreur. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel déjà est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian ?» L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël ? Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Oui, oui, d'accord, mais ça je sais, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Ça me fait penser à David aussi. Le plus petit est devenu plus fort que le plus fort. Ah oui, Gédéon, hein, je n'ai rien de bien en moi, je suis trop petit, je suis trop insignifiant, alors je me protège, je m'isole, j'ai pas d'avenir. Hein. Mauvaise vision de soi-même. Mais est-ce que je suis donc, en fait, bon à rien ? Est-ce que je suis bon à rien ? Je suis frustré, ça me frustre, je suis inutile, comment Dieu peut m'utiliser ? Si j'étais différent, si j'étais différent, plus comme ceci, plus comme cela, peut-être que là j'aurais, on va dire, une chance de réaliser quelque chose. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple plus personnel. J'avais une fissure dans un muret de mon jardin que j'avais construit. Le plus habilement possible, moi je pensais. Mais une fissure s'est faite. Et à force, je ne voyais plus que cela. J'avais l'impression que cela gâchait ce joli muret que j'avais pris de peine à construire. J'aurais pu continuer à me lamenter avec cette image. Chaque fois que je passais devant, je ne voyais que cette fissure. Il était mieux quand même ce muret avant cette fissure. Alors j'ai entrepris sa restauration, j'ai gratté, j'ai éliminé ce qui ne tenait plus, j'ai brossé, puis j'ai rebouché et refait le revêtement. Ah, quand je regarde ce muret aujourd'hui, je suis fier du résultat. Et vous savez quoi, je ne vois plus la fissure. Je ne vois plus que ce joli muret, d'ailleurs la fissure a disparu. Petite leçon de choses. Est-ce que vous avez déjà fait le test suivant et essayé de marcher devant vous si vous tournez la tête vers l'arrière ? Essayez, c'est un petit peu difficile. Hein ? Déjà, on ne marche pas droit. Et on ne sait pas où on va. Ou alors, est-ce que quand je suis en voiture, pour conduire, je ne regarde que le rétroviseur qui se trouve devant et qui montre quoi ? Ce qui se trouve derrière. C'est le meilleur moyen de se planter. Un mot va revenir dans ce message, c'est le mot remords. Le remords, c'est le tourment moral causé par la conscience d'avoir mal agi. Le sentiment de contrariété, de désagrément éprouvé par notre conscience. Quelqu'un disait, mieux vaut avoir des remords que des regrets, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Comment est-ce que je vis mon passé quand je songe à ce que j'ai traversé? Des bonnes ou des mauvaises expériences? Est-ce qu'elles sont oubliées, surtout les mauvaises expériences? Ou alors elles refont surface de temps en temps pour me perturber? Hein? Eh oui. Qu'est-ce qu'elles ont changé dans ma vie? Quelle image elles me donnent maintenant de ma vie ou de la vie? Quels sont les ressentiments que j'éprouve envers ce passé? De la joie? Des remords? Je vois qu'il y a des têtes qui se secouent dans tous les sens. Une envie terrible de vouloir changer quelque chose? Question pertinente, hein? Mais perspicace. Et c'est intéressant à se poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce que souvent, mon passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ressurgit pour me troubler, me contrarier, me perturber. Et là, j'avance en commençant à regarder vers l'arrière. Les remords, diverses et variées que j'ai pu éprouver sur mon passé ou que je peux encore éprouver sur mon passé dans des expériences douloureuses, parfois, des choix qui se sont avérés apparemment mauvais sont néfastes pour ma vie présente et future si je les laisse dans cet état négatif. En ressassant mes fautes du passé, en fait, je les maintiens vivantes. Mes fautes ou mes expériences douloureuses, enfin, vous avez compris, je les maintiens vivantes. Et je les aggrave. Je leur donne de plus en plus d'importance. En clair, elles me pourrissent la vie. Parfois, elles me pourrissent mes nuits. Elles me pourrissent mes rêves. Et c'est plus des rêves, c'est des cauchemars. Ce que je conserve au fond de moi ressurgira à la première occasion pour me ronger, pour prendre à nouveau possession de ma vie. Alors pour éviter cela, la plupart du temps, pour éviter les drames, une seule solution, c'est me pardonner et aussi pardonner aux autres. Vivre dans les remords n'est pas une bénédiction. Loin de là. Cela fait partie des fardeaux que Christ a portés sur la croix à ma place. Il a porté mes expériences douloureuses. Il a porté l'image négative que je peux avoir de moi. Personnellement, moi, je me trouvais complètement inutile. Et d'ailleurs, on ne se cachait pas pour me le dire. De toute façon, tu ne sers à rien. Et puis, tu n'es pas assez intelligent. Et en plus, tu ne sais pas parler. Ben aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu as quand même fait quelque chose d'un petit bonhomme comme moi. Il est essentiel de se rappeler cela, de se rappeler que Jésus a pris mes fardeaux sur la croix. Il les a pris. Il n'a pas dit, je les prends. Puis sur la croix, et puis dès que je repars, je te redonne ton sac à dos, et puis tu vas te débrouiller avec tout ça. Souvenons-nous de cette promesse de Dieu, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos péchés. Psaume 103, 12. Mais, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, toutes les fois que le diable vous ramène à votre passé, c'est pour vous troubler et pour vous priver des promesses de Dieu pour votre avenir, en vous faisant douter de Dieu lui-même. Un regard vers l'avenir et un regard vers le passé, c'est pas possible. C'est marcher, vouloir aller de l'avant en regardant derrière. Et puis, est-ce que j'ai de la faculté de changer les choses, de changer ce qui est passé maintenant? Non. Alors, le passé est passé. Vous vous souvenez de l'histoire de Sarah ? Que quand je construisais ce texte, je dis, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui est allé de l'avant et qui a regardé vers l'arrière ? Lot, parce que c'est l'histoire de Lot, hein, dans Genèse 19. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Il va détruire le passé. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Forcément, c'est comme du temps de Noé. Hein, ben, pff, le déluge, rigolo. Comment ça peut arriver ? Mais dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes enfants et tes filles. Va-t'en, de peur que tu ne périsses. Si tu restes dans le passé, tu vas périr. » Et comme il tardait, ah oui, parce que parfois on a du mal à avancer, hein. Les hommes le saisirent par la main, faut le faire hein, quand même, hein. Lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Il y avait quand même un avertissement costaud, hein. Ne regarde pas derrière, de peur que tu ne périsses. Me semble-t-il, les choses sont claires. Arrête de rouler à 130, il y a un mur au bout, si tu ne ralentis pas et ne te freines pas, tu vas te tuer. Et au verset 24 et 26, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous ses habitants des villes et les plantes de la terre, comme il l'avait annoncé. » Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La femme de Lot, elle s'est retournée. Elle a regardé en arrière. Je sais pas si c'était par curiosité ou se dire, c'était peut-être pas mal. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, hein, des fois on se dit. Hein. Hein, c'est comme les enfants d'Israël. Ben, on veut retourner en Égypte, on était esclaves, mais c'était peut-être bien. Et elle devint une statue de sel. Elle est morte. Et pourtant, l'Éternel voulait sauver cette famille. Souvenons-nous de l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait dans son passé, Jésus ? Son passé qui est aussi le mien. Quelles ont été les conséquences ? Positives ou négatives ? Ah, si je ne m'arrête que sur la crucifixion de Jésus, ça peut être terrible pour moi. On pense à moi, mais en tout cas, il est mort. Il a souffert. Donc, oui, mais la suite, le positif, il a pris mes fardeaux. Il m'a préparé une place. Enfin, il m'a montré le chemin. Ça, c'est le positif. Ça, c'est aller de l'avant. Pensez aux souffrances de Jésus, se flageller. C'est pas le nier. C'est le reconnaître. Mais c'est voir ce que ça en découlait de positif. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie chrétienne est une suite de choix judicieux, de décisions sages, de vigilance et de persévérance dans cette relation à Dieu. Nous restons pleinement acteurs de nos vies, hein, et nous portons les conséquences de nos décisions et de nos choix. Chacun doit y veiller chaque jour, avec l'aide de Dieu et avec l'aide parfois de certaines personnes compétentes dans notre entourage. Souvenez-vous, hein, Hébreux 8, 12, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de tes fautes. Effacer, oublier. Quand nous lui présentons notre passé négatif, il l'efface, il oublie, et il nous fait aller de l'avant. Et si nous agissons différemment, nous remettons en cause sa faculté à pardonner et à oublier. Alors, est-ce que mes valeurs seraient-elles supérieures à celles de Dieu ? Agir de cette manière permet à l'ennemi de nous tenir prisonniers dans un raisonnement trompeur, perdant notre paix et notre assurance en Dieu. Quand le doute s'installe, et donc de nous priver de bénédiction. Cessons les remords. Ça ne sert à rien de dire « oui, avant, oui, quand j'étais petit, ben oui, ben maintenant je suis toujours petit. Enfin, en tout cas, je ne suis pas grand. » Oui, ben oui. Et tout ce qu'ils ont dit de toi, eh ben, c'est du passé. Parfois, on reste trop tracassé, trop préoccupé, trop dans la crainte, trop dans les soucis, dans les tourments et de toutes sortes. Faut-il subir et laisser faire ces choses ? Ben non, non. Dieu veut que nous reconnaissions ce qui nous trouble, bien sûr, mais pour nous aider, pour nous pardonner, et nous aider. L'inquiétude qui nous envahit parfois trahit notre manque de foi. Pourtant, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi êtes-vous troublé, a dit Jésus. Pourquoi ? Dans Marc 4, versets 35 à 41, il y a cette histoire de Jésus avec ses disciples, quand Jésus dit « passons de l'autre bord ». Et puis il y a le tourbillon, les flots, la barque avec les disciples était prête à couler. Mais lui, il dormait tranquillement, à l'avant, sur un coussin. Et là, ils lui disent « mais maître, tu t'inquiètes pas de ce que nous allons couler ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « silence, tais-toi ». Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Oui, c'est vrai, il y a des vagues. Oui, c'est vrai, il y a du vent. Ce n'est pas nier ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, c'est une réalité. Mais pourquoi craindre ? Ses disciples disent, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Dans nos tempêtes, dans celles que nous avons traversées, ou peut-être dans celles que nous traversons, et peut-être dans celles que nous allons traverser, Dieu veut nous montrer qu'il maîtrise la situation. C'est en reconnaissant nos faiblesses que Dieu nous fortifie. Mais pas en se disant, j'y arriverai pas. Se tourner vers Jésus, c'est ça la solution. Il est notre espérance, car sans cette espérance, il n'y a pas de vie possible. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Ah, chaque jour suffit sa peine. Bah, d'ailleurs, le lendemain, c'est le futur. Je ne le connais pas. Je ne vis que l'instant présent. Ne pars pas de ce lieu sans avoir remis entre les mains du Seigneur les remords de ton passé, les doutes, les craintes, les faiblesses. Quand on regrette, le passé est passé. Ce qui te paralyse, t'empêche de te réaliser, de t'épanouir, te paralyse parfois. Rejette-les au nom de Jésus. Amen. Rejette-les au nom de Jésus. Josué chapitre 1er, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La conséquence, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras quand tu ne te nourriras de la parole de Dieu. Quand tu diras, ouais, Gédéon, là, David, ils étaient tout chétifs, ils étaient tout petits, ils n'étaient pas riches. Et ils ont accompli les destins que Dieu avait mis devant eux parce qu'ils ont eu confiance en Dieu, qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. De Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et puis souvenons-nous, même dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Alors ne crains point et ne t'effraie point. Point. Et c'est pas parce que ça a été écrit en Deutéronome qu'on se dit, ouais, mais ça c'était avant. Non, parce que ça c'est maintenant aussi. Malheureusement, parfois je n'assume pas mes échecs, je n'assume pas mes erreurs. Je mets dedans toutes mes faiblesses, le négatif. Pourtant, en m'autorisant l'échec, le fait de pouvoir échouer, je m'autorise le plaisir du succès qui suivra. Ah, c'est complètement différent. Ce n'est pas ce que j'ai perdu qui compte, mais ce qu'il me reste. Assumer mes échecs, apprendre à les gérer, à en tirer le positif, le meilleur et enfin les surmonter. Je lisais l'histoire de l'aviation et ceux qui se sont lancés là-dedans, il a fallu des essais, infructueux, jusqu'à ce que la persévérance a porté ses fruits. Je vous laisse pour terminer deux versets. Et puis je vous laisse tout le reste de la journée, et puis toute la semaine, et puis toutes les vacances pour méditer. Pour méditer sur le passé, c'est passé. Oui, le passé, c'est passé. Tant que tu ne pourras pas te dire le passé, c'est passé, c'est que tu n'as pas réglé ton passé. Tu ne l'as pas mis au pied de la croix. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et le dernier verset, c'est dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, je la fais, j'y pense, mais je le fais, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul, vous imaginez Paul, ce qu'il a fait dans le passé? Et ce qu'il a fait après, il s'est retrouvé devant les mêmes personnes qu'il avait persécutées. Alors si chacun avait gardé son passé, qu'est-ce que ça serait devenu? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle puisse porter du fruit en chacun de nous. Amen.